Le grand entretien. François Bunel.
Écoutez bien, car c'est l'une des plus vieilles énigmes de l'humanité qui vient peut-être de trouver sa résolution. Que signifient les dessins tracés sur les cavernes et les grottes par nos ancêtres de la préhistoire ? Comment expliquer que pendant 30 000 ans, ces dessins aient été reproduits avec une telle constance ? Comment faisaient ces hommes et ces femmes pour dessiner sans sembler être gênés par l'absence de lumière ou encore par les reliefs des parois ? Un dessinateur a peut-être bien percé ce mystère qui renvoie à celui de l'écriture comme à celui de la peinture. Il est peintre, dessinateur, diplômé des Beaux-Arts de Rennes, et il s'est livré à une série d'expériences sous le regard de Jean-Jacques Lefrère, historien de la littérature et co-auteur de ce livre fascinant qui sort aux éditions Fayard sous ce titre « La plus vieille énigme de l'humanité ».
Le grand entretien sur France Inter.
Bertrand David.
François Bunel. Bonjour Bertrand David.
Bonjour.
Alors si vous êtes seul à ce micro aujourd'hui, même si vous avez coécrit avec Jean-Jacques Lefrère ce livre qui s'intitule donc La plus vieille énigme de l'humanité et qui paraît chez Fayard, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que c'est vous qui avez, allumé l'étincelle à partir de laquelle cette hypothèse est en train de faire de plus en plus d'adeptes et puis de, on va le voir, répondre la question qui nous préoccupe, à savoir, mais comment expliquer qu'il y ait une telle constance dans ce qu'on appelle l'art pariétal, hein. Alors, vous n'êtes pas préhistorien, ni même spécialiste de cette période qui reste encore très largement méconnue. Vous êtes dessinateur et peintre. On va commencer par vous situer, si vous voulez bien, Bertrand David. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, vers d'abord l'univers de la peinture et du dessin ?
Je crois que depuis que je suis tout petit, enfin que j'ai été tout petit, depuis l'âge de 6 ans, j'ai toujours dessiné. C'est toujours quelque chose qui m'a passionné, qui m'a fasciné, comme beaucoup d'enfants. La majorité des enfants arrêtent à peu près à l'âge de l'adolescence parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas doués ou qu'ils n'y arrivent pas. Moi, j'ai continué. J'ai continué, je n'avais pas de don particulier, hein, comme beaucoup de dessins, d'enfants,
je tâtonnais. C'est de la fausse modestie ou non, c'est l'idée plus précise que le don n'existe pas ?
Il a fallu que j'arrive à 15-16 ans pour arriver à être peut-être le meilleur de ma classe en dessin. Mais par contre, je dessinais toujours beaucoup. C'était une passion. Alors au départ, ça se passait sous forme de bande dessinée. Et puis un jour, j'ai découvert l'histoire de l'art et les grands dessinateurs et les grands peintres. Et ben, je veux dire, 40 ans après, je suis toujours quelqu'un qui consacre une grande partie de son temps libre à étudier le dessin et la peinture, à la pratiquer, parce qu'il s'agit vraiment d'une passion. J'ai donc fait les Beaux-Arts à Rennes. J'ai ensuite une activité de graphiste, de dessinateur dans des domaines variés. J'ai fait beaucoup de choses pendant une dizaine d'années. Et puis finalement, j'ai préféré séparer mes activités en deux, c'est-à-dire continuer à faire pour moi de la peinture de manière complètement libre, en n'ayant de compte à rendre à personne, et en faisant seulement la peinture qui m'intéressait, et en quitte à prendre une autre activité professionnelle à côté, je dirais un peu plus alimentaire, mais qui me permet au moins de faire intégralement la peinture que j'aime.
À quoi ressemble-t-elle cette peinture que vous pratiquez, vous ?
Alors, ça surprenait déjà mes condisciples quand j'étais au Beaux-Arts, parce que c'était dans les années 80 et on était déjà à la mode, des installations ou de certains peintres. À l'époque, c'était Kia, Kiefer, des gens comme Combas qui émergeaient un peu. Et moi, je devais être un des seuls à m'intéresser à Lebrun, Fragonard, Vermeer.
Extrêmement Rembrandt. Classique et académique, voilà, à l'époque de l'art contemporain.
Oui, alors bon, bien entendu, j'avais pas de fermeture. Hein, tous les types d'art sont intéressants, tous les styles, toutes les époques, toutes les évolutions ont leur intérêt. Disons que moi, il y avait une dimension qui m'a toujours fasciné peut-être davantage que d'autres peintres, bien que ce ne soit pas en principe central, mais c'est l'aspect technique. C'est-à-dire que l'aspect... Alors technique, il ne faut pas se méprendre. La technique en soi n'est pas un but, mais ce qui m'intéressait et qui m'intéresse toujours, c'est de repasser un peu sur les pas d'un peintre. C'est-à-dire que j'ai fait par exemple beaucoup de copies de toiles de maître, hein, mais quand il m'arrive d'apercevoir au Louvre, par exemple, des copistes, je m'aperçois que leur but semble être de vouloir se rapprocher le plus possible de la toile qu'ils observent. Alors que quand je fais des copies, moi, ce n'est pas mon objectif premier, c'est avant tout de me documenter sur la technique réelle du peintre. Il y a beaucoup d'écrits qui nous racontent de témoins qui ont assisté à la manière dont une toile pouvait être ébauchée. Il y a beaucoup de toiles incomplètes, inachevées. Il y a beaucoup de dessins, d'esquisses qui peuvent nous aider. Mais l'intérêt de faire une copie d'un tableau de Poussin, par exemple, c'est de partir évidemment sur un fond ocre rouge, comme il le faisait, et d'essayer de monter vers la lumière, comme il le faisait, et non pas de copier simplement un tableau de Poussin. C'est de repasser un peu sur les traces du peintre, et ça provoque ensuite un regard sur les tableaux. Je ne suis pas sûr de visiter les musées exactement de la même manière que tout le monde. C'est-à-dire que j'essaye à chaque fois de reconstituer les différentes étapes qui ont permis de faire naître un tableau. Parce qu'on oublie souvent que, très souvent, que le tableau qu'on aperçoit, ce n'est finalement que la dernière couche.
La dernière couche.
Je ne sais pas si vous avez vu le mystère Picasso de Clouzot, où on s'aperçoit qu'un tableau de Picasso pouvait prendre 10, 20, 30 aspects avant que Picasso s'arrête et considère que le tableau était terminé. Et les tableaux qui sont dessous n'appartenaient qu'à lui. Ils ont été filmés dans le film de Clouzot, mais aujourd'hui, avec les moyens modernes, on peut radiographier certains tableaux et s'apercevoir que très souvent, ils ont eu un aspect très différent de celui qui nous apparaît. Et moi, c'est cet aspect-là de la peinture qui m'a toujours intéressé, c'est que se passe-t-il entre la toile vierge ou entre la toile enduite d'une certaine couleur et la toile terminée. Il peut y avoir beaucoup d'étapes.
Vous évoquez Picasso, Bertrand David, c'est Picasso, je crois, qui disait qu'il avait appris à peindre dans les musées, que le meilleur moyen pour apprendre à peindre n'était pas de laisser son imagination jaillir sur la toile, mais de reproduire, de recopier, d'essayer d'imiter presque ce que faisaient les autres. Comment vous avez-vous appris ? Est-ce qu'on apprend d'ailleurs à dessiner ou est-ce que l'on est peintre, dessinateur ou avec des dispositions ?
Alors, tout le monde n'a pas les mêmes prédispositions, ça c'est évident. Par contre, il n'existe pas, même si Picasso a commencé très jeune, mais son père était peintre, il ne faut pas l'oublier, Dürer aussi a commencé très jeune, il n'existe pas de peintre inné. C'est toujours des gens qui ont appris,
même
qui ont
reçu
un enseignement. Les grands génies ont appris vite et ils ont souvent dépassé leur maître très très rapidement. Mais ils ont appris vite relativement. Je dirais, je suis certain que même Mozart a appris la musique. Il a dû l'apprendre très très vite et de manière très précoce, mais il l'a appris. Son père était musicien. Quelqu'un naissant avec le don inné, parce que les fées se sont penchées sur son berceau, du dessin ou de la peinture, ou de la musique d'ailleurs. Est-ce que ça existe ? Moi, j'ai un doute.
Je vous pose la question, Bertrand David, parce qu'elle a une importance, votre réponse capitale, pour comprendre évidemment ce qui nous préoccupe et qui est au cœur de votre enquête sur cette énigme de l'humanité, à savoir comment les hommes préhistoriques ont réussi à dessiner, peut-être même à apprendre à dessiner, puisque jusqu'à présent, on se disait, mais ça ressemble à des dessins faits à la main levée. Je reviens quand même sur votre parcours. Des années 80, les Beaux-Arts, à Rennes, vous décidez d'aller du côté de la reproduction d'œuvres plutôt...
Non, la reproduction, c'était un aspect du travail pour apprendre. Mais à côté, j'ai toujours eu une peinture personnelle. Mais cette peinture, qui n'était peut-être pas une peinture considérée comme très actuelle, quoi qu'il n'y a pas d'époque ou de choses plus ou moins moderne en peinture. À l'époque, du moins, ça faisait un petit peu tâche, parce que c'était pas trop tendance, on va dire. Mais j'essayais de faire des tableaux personnels avec un métier relativement classique, c'est-à-dire la peinture à l'huile, qui n'était déjà plus enseignée aux Beaux-Arts à l'époque. J'avais eu la chance qu'on m'offre, mon frère avait trouvé chez un bouquiniste un manuel datant de 1820, je crois à peu près, écrit par un certain Bouvier, et qui faisait un peu l'état des lieux de la technique de la peinture en 1820. Et j'ai eu la surprise de constater que les trois quarts des procédés ou des couleurs ou des matériaux qu'il préconisait étaient parfaitement disponibles dans le commerce et qu'en refaisant les gestes qu'il préconisait, on obtenait les mêmes effets.
C'est-à-dire avec les matériaux d'époque, un peu comme les musiciens s'amusent à jouer ou veulent jouer sur les instruments d'époque.
Oui, sauf que les pigments n'ont pas changé pratiquement. Donc beaucoup de couleurs modernes sont apparues depuis, mais si on s'en tient aux simples pigments, et curieusement, d'ailleurs, certains de ces pigments sont les mêmes employés par les hommes préhistoriques. Hein, l'ocre jaune, l'ocre rouge ou le noir d'ivoire, à la limite, sont des tubes qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce et qui sont exactement les pigments employés par les hommes préhistoriques dans les grottes, broyés. Donc finalement, la peinture est une très longue histoire, mais avec des constantes. Et donc j'ai toujours eu en parallèle donc, à ce travail d'études, un travail de peintre personnel aussi. Oui.
On peut vivre de sa peinture aujourd'hui ? Est-ce que vous vivez de votre peinture ?
J'en vis partiellement. J'en vis partiellement, mais je dirais qu'actuellement, j'ai trouvé un équilibre entre deux activités. Une activité un peu alimentaire, 2-3 jours par semaine. Je dis alimentaire, mais à la fois, c'est...
Qu'est-ce que c'est votre activité alimentaire?
Alors, je dis alimentaire, mais c'est péjoratif. Enfin, c'est une activité qui me plaît beaucoup. Je travaille dans l'insertion. Donc, j'aide des jeunes, notamment, à trouver des formations, à monter avec eux des plans de formation pour leur permettre de se qualifier. Donc, c'est un travail qui n'a aucun rapport avec mon activité artistique, que je fais 2 à 3 jours par semaine. Mais qui est très complémentaire, parce que le travail de peintre-dessinateur, c'est un travail assez solitaire. On est coupé du monde. C'est un travail, il faut bien le reconnaître, un petit peu égoïste aussi. On se fait plaisir, même si, à terme, on espère évidemment partager avec les autres sa production artistique. Mais, à titre personnel, moi, j'ai trouvé plus équilibrant, et ça doit faire une quinzaine d'années que je vis comme ça, d'avoir quelques jours par semaine une activité très... avec une utilité sociale, on va dire.
Et puis, altruiste.
Pardon ?
Altruiste, par ailleurs.
Disons, ça me permet de me replonger sur ma peinture en tout égoïsme et avec un bonheur incomparable.
Et alors, depuis quand, Bertrand David, vous intéressez-vous à cette question du sens et de la technique des dessins préhistoriques ?
Eh bien, ça s'est inscrit un petit peu dans le même cadre que mon intérêt pour toutes les techniques de dessinateur et de peintre. Je me suis intéressé au portrait du Fayoum de l'Antiquité, à la technique de Fragonard, celle de Rembrandt qui est d'une complexité inimaginable. Concernant les peintures préhistoriques, il y avait quelque chose qui pour moi était incompréhensible. C'est-à-dire que tout ce que j'avais pu lire, et j'ai quand même passé 20-30 ans à le faire, sur la genèse du dessin et les mécanismes mentaux qui sont nécessaires pour arriver à dessiner de façon réaliste, eh bien, ne s'appliquait pas en ce qui concerne l'art préhistorique. Comme si ces personnes, je vais faire bondir, mais étaient presque des personnes dont le cerveau était fait différemment.
Or, prenons un exemple assez concret.
Si on observe les dessins de 10 ou 15 dessinateurs distincts de très bon niveau, y compris des dessinateurs, mettons, de la Renaissance italienne. Et c'est pour ça qu'il existe des experts, d'ailleurs. Il y aura toujours des différences de style dans leur manière de gérer le trait, la ligne. Certains vont avoir un trait plus anguleux, d'autres un trait plus arrondi, plus saccadé, plus haché, plus repris, avec des différences de pression, d'épaisseur. C'est ça qui fait la beauté, d'ailleurs, des œuvres dessinées. C'est qu'on voit que le dessin est avant tout une écriture. Il n'y a pas deux écritures semblables et il n'y a pas deux dessins semblables.
Donc il y a une unicité, plus exactement, du style de chaque peintre, de chaque dessinateur.
Voilà, et une forme de signature. Or, si on observe, en faisant un peu un travail d'extraction de la ligne, les dessins préhistoriques, on s'aperçoit que là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas ces traits hachés, cette manière, cette vision... volontaire ou involontaire d'ailleurs, que chaque dessinateur a, de représenter, en pensant être fidèle à la réalité, il aura quand même toujours une patte. Le trait de Rubens n'a aucun... des volumes, des proportions, le trait, 10 traits de Rubens n'ont rien à voir avec 10 traits de Léonard de Vinci, qui n'ont rien à voir avec 10 traits de Michel-Ange.
Et ce sont, dans à 2 siècles de distance, des contemporains.
Tout à fait. Hein ? Or, là, nous avons affaire à des dessins qui, pendant 30 000 ans, correspondent à une écriture. Attention, je ne parle pas de la manière dont ces dessins sont complétés avec des couleurs, avec
le trait
du contour.
Voilà.
On trouve toujours le même trait affirmé, non hésitant, posé en une fois, sans repentir, jamais repris, parfois interrompu. Et bien sûr, il existe de très grandes différences entre Chauvet et Lascaux, qui sont eux-mêmes distants d'environ 15-17 000 ans, mais on a cette même constance du trait. Comme si... aucun de ces dessinateurs, déjà, n'avait de caractéristiques véritablement propres par rapport aux dessins voisins. Même un mur rempli de graphes ou de tags aujourd'hui, on voit les différentes identités des signataires.
Des taggeurs.
Taggeurs. Ils ont leur style,
mais
ils ont leur patte.
Mais pour vous, quand vous regardez les dessins de Chauvet qui datent de 32 000 ans avant notre ère, ou ceux de Lascaux, 17 000...
Alors, il y a des grosses différences stylistiques au niveau du rendu des proportions. À Lascaux, très souvent, les têtes sont plus réduites au niveau des proportions. À la limite, c'est beaucoup plus réaliste à Chauvet. Mais en ce qui concerne le tracé, le trait est le trait de quelqu'un qui n'éprouve aucun doute.
Et la question, évidemment, qu'on se pose tous en vous écoutant, c'est la suivante. Mais comment expliquer qu'à 15 000 ans d'écart, et sur des distances aussi importantes entre, par exemple, Lascaux et Chauvet, il puisse y avoir cette même hein, constance de traits et de dessins. On va y répondre à cette question juste après une toute petite pause musicale. Voici Falls sur Inter, My Number. Bertrand David, peintre et dessinateur, nous allons parler de la préhistoire et tenter de répondre à ces questions. Par exemple, comment les hommes préhistoriques, réputés rustes, ont-ils pu produire des images aussi belles que celles que l'on voit? Mais aussi, comment expliquer qu'entre les grottes de Chauvet, qui existent donc depuis 30 000 ans avec des dessins, et les grottes de Lascaux, 15 000 ans plus tard, on retrouve la même constance dans le trait. Un point d'ailleurs que vous mentionnez hein, dans ce livre coécrit avec Jean-Jacques Lefrère, Bertrand David, c'est qu'il y a presque autant d'écart entre Chauvet et Lascaux, 15 000 ans, qu'entre Lascaux et nous, aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait pu imaginer, est-ce qu'on peut imaginer que les hommes préhistoriques se soient transmis leurs pratiques?
À mon avis, ceux-là sont transmis. Mais cette pratique devait être suffisamment simple à transmettre pour que cela ait pu se faire sans interruption.
Pendant 15 000 ans.
15 000 ans. S'il s'agissait d'une pratique nécessitant une initiation longue, coûteuse, un peu comme l'apprentissage du dessin, ou bien simplement déposer entre les mains de quelques initiés une caste de sorciers,
ce qui est la thèse la plus communément admise aujourd'hui par les préhistoriens, hein, que l'on soit du côté de ceux qui penchent vers le chamanisme ou ceux qui penchent vers l'idée d'artiste, la thèse la plus courante aujourd'hui chez les préhistoriens est celle-ci.
Voilà, de quelques articles,
des artistes qui feraient partie du clan,
d'une caste privilégiée qui aurait eu un rôle spécifique.
Est-ce que c'est recevable selon vous ?
A priori, ce sera difficile de connaître jamais la vérité, mais moi je considère que quelque chose qu'on transmet 30 000 ans sans interruption, parce qu'attention, s'il y avait une interruption, ne serait-ce qu'une ou deux générations moins bien nourries, une famine, une épidémie, une glaciation un peu plus sévère, le fil, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé pratiquement dans toute l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas d'autres traditions qui se seraient transmises 30 000 ans sans interruption, à part s'il s'agit d'un savoir-faire relativement simple à imiter. La fabrication d'une flèche, la fabrication d'un arc, la taille de la pierre, sont des choses qui se sont transmises parce qu'on regarde l'autre faire, on a compris.
Mais dessiner des bisons, dessiner à main levée comme ça des œuvres d'art, ça vous semble beaucoup plus compliqué à conserver avec cette constance pendant 30 000 ans.
Ah bien, avec cette constance de qualité, certainement. Parce que autant on trouverait de grandes périodes avec des dessins beaucoup plus faibles ou beaucoup plus maladroits. Et là, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a toujours une constance. Bien sûr, il y a des œuvres bien plus réussies, bien plus riches que d'autres. Mais dans l'ensemble, la majorité des dessins préhistoriques qu'on a retrouvés témoignent d'un savoir-faire et d'une sûreté, notamment dans la maîtrise de la forme du contour de l'animal, qui est tout à fait impressionnante.
Alors, il les a tous en tête, évidemment, ces dessins qu'on a pu voir sur les grottes de Lascaux, d'Altamira, de Chauvet, etc. Vous insistez également, Bertrand David, sur quelque chose qui est un point qui vient augmenter le mystère, les lieux. Ces dessins sont très souvent dessiné à l'endroit le plus retiré de la grotte, c'est-à-dire là où la lumière ne pénètre pas.
Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on constate chez tous les préhistoriens. Et alors on peut l'expliquer bien entendu pour des raisons religieuses, symboliques, en disant que ce sont des lieux tabous, des lieux sacrés, des lieux de cérémonie. Il n'est peut-être pas impossible d'y voir aussi une raison pratique, en disant un endroit où il n'y a pas de lumière, c'est peut-être un endroit qui se prête mieux à certains types de pratiques.
Mais pas de contemplation. Ça voudrait dire aussi que ces œuvres n'ont pas été faites pour être vues ?
Alors là, ce serait pratiquement... Enfin, je ne connais pas beaucoup d'autres cas. Je ne connais pas, bien sûr, toute l'histoire de l'art de tous les continents. Mais des œuvres qui sont faites pour ne pas être montrées ou pour ne pas être vues ne sont quand même pas la majorité.
Il y a les portraits du Fayoum. Vous évoquiez le Fayoum. C'était ces fameux portraits que l'on destinait aux tombes et non pas
Mais on est à peu près sûr maintenant, vu l'état dans lequel on les a retrouvés, les tableaux du Fayoum, qu'ils étaient exposés du vivant de la personne et n'étaient utilisés comme portrait funéraire
qu'à la mort de cette personne.
Mais tout le long de la vie de cette personne, puisqu'on a retrouvé des momies de vieilles femmes avec un portrait du Fayoum de jeunes femmes sur le sarcophage.
Là, le mystère s'épaissit. C'est-à-dire que nous avons non seulement la quasi-impossibilité technique de transmettre un savoir comme ça pendant 15 ou 25 000 ans. Nous avons l'idée qu'on va aller dessiner au plus profond de ces parois pour qu'en plus, ça ne soit pas forcément contemplé. Mais alors, comment procédait-il si vous ne croyez pas, vous, au dessinateur inné, ni à la transmission d'une caste au sein du clan ? Qu'avez-vous mis à jour ?
Alors, ce que j'ai mis à jour, c'est... Alors, il ne s'agit pas du tout de dire que c'est la plus vieille énigme de l'humanité, enfin résolue définitivement. Non, je pense qu'il faut être plus réaliste que ça. Il y a des dizaines de préhistoriens qui ont travaillé des années pour observer ces grottes, faire des relevés extrêmement précis. La chance que j'ai peut-être eue, moi, c'est de poser un œil de dessinateur. Et je considère que cet œil, en tant que dessinateur, est une compétence qui en vaut bien une autre. On nous a reproché de ne pas être préhistorien, donc sous-entendu de ne pas avoir droit à la parole sur le sujet. C'est une petite insiste que je fais.
Mais elle est importante, parce que c'est vrai qu'en France, on cloisonne énormément les savoirs, les disciplines. Alors, on a le plus grand respect tous pour les préhistoriens, mais il n'est pas impossible qu'un jour, des musiciens, des philosophes, des littéraires, ou des peintres et des dessinateurs puissent apporter leur pierre.
C'est une remarque que je me suis faite, c'est quand des fouilles archéologiques mettent à jour une sépulture ou une momie, par exemple. Mm-hmm. Bien entendu, on va faire appel à quelqu'un, il y a une formation de médecin légiste, parce que les archéologues ne vont pas sentir avoir la compétence pour savoir les raisons du décès ou l'état de santé de la personne qui est retrouvée. Ça semble tout à fait normal. Par contre, quand des préhistoriens étudient des dessins, l'idée de faire appel à des dessinateurs ou à des artistes, non, c'est pas la peine. En gros, l'art, tout le monde, ou le dessin, tout le monde se rend compte. Moi, je considère que la compétence de dessinateur ou de personne qui connaît très bien l'histoire de l'art n'est pas négligeable en ce qui concerne des dessins préhistoriques.
Donc, on peut dire que vous êtes un peu Bertrand David, vous, dessinateur, le médecin légiste de ces découvertes ou de ces parois.
Il ne s'agit pas d'être prétentieux comme ça. Ce n'est pas du tout le même type de compétence. Mais je veux dire que l'avis d'un dessinateur, et je vous dis ça parce que suite à... Nous avons réalisé, Jean-Jacques Lefebvre et moi, une petite vidéo sur YouTube qui fait 7-8 minutes pour présenter l'idée, dont je vais parler, l'idée de la projection d'ombre. Les réactions que j'ai reçues par dizaines à la suite de la diffusion de cette vidéo, qui atteint un nombre de vues qui devient, il suffit de taper la plus énigme de l'humanité sur YouTube et on tombe dessus. J'ai reçu des dizaines de mails de photographes, d'artistes, de plasticiens, de dessinateurs, de graphistes, dont certains bouleversés.
C'est-à-dire des spécialistes de la technique, c'est important, parce que ce ne sont pas des préhistoriens, mais ce sont des spécialistes de la technique.
Des praticiens, des gens qui savent ce qui se passe dans la tête ou dans le geste ou dans la main d'un dessinateur qui doit être confronté à une représentation, la représentation d'un contour, et qui doit faire appel à la fois à sa dextérité manuelle, à sa mémoire, à son imagination, à la matière, parce que quand il s'agit d'un dessin qui fait 4 ou 5 mètres de large, comme certains dessins à Lascaux, il y a aussi une contrainte technique qui est lourde, eh bien... C'est pas du tout le même regard que quelqu'un qui dit oui, j'ai vu ça, mais je n'ai jamais.
Je crois que la précaution oratoire là est suffisamment forte. C'était une incise. Non, vous avez raison de la faire pour sortir aussi un petit peu de ce mythe des cloisons entre disciplines. On considère, sinon vous ne seriez pas à ce micro, qu'évidemment, en tant que peintre, en tant que dessinateur, vous avez au moins cette compétence de la technique et évidemment le droit de vous intéresser à tout ce qui relève de la préhistoire. Alors, maintenant, je vous pose la question, qu'avez-vous découvert qui n'est pas la résolution avec affirmation de cette énigme, mais qui est peut-être une piste sur laquelle les préhistoriens pourraient travailler.
C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite et c'était vraiment notre intention. En fait, un faisceau d'indices, je vais peut-être les détailler un petit peu après, nous laisse entendre, vous m'avez fait entrevoir, et j'ai essayé de tester par des hypothèses, que ces dessins auraient été obtenus de la façon suivante. En projetant sur une paroi l'ombre portée d'une figurine qu'on obtient à la lueur d'un flambeau, d'une torche, d'une lampe, il est possible à n'importe qui n'ayant pas de formation graphique ou de dessinateur spécifique de contourner avec un morceau de charbon de bois, par exemple, ou un morceau d'ocre, la forme de cette ombre et d'obtenir sur une paroi un dessin avec un réalisme très convaincant.
Donc ça s'appelle le décalque.
C'est pas tout à fait le décalque. C'est le contour de l'ombre portée.
Voilà.
On peut appeler ça ombre chinoise si on veut, mais je trouve ça un petit peu péjoratif.
C'est-à-dire que c'est un peu ce que nous faisions quand nous étions enfants tous.
Oui.
On ne faisait pas la lueur de la bougie.
Mais chaque auditeur peut le faire chez lui. Il prend une petite figurine, un petit objet, il le met devant une lampe de chevet ou au-dessus d'une lampe de chevet, ce qui est encore mieux, il le verra au plafond.
D'accord.
Et il verra que ce projet, ou avec une lampe de poche ou une lampe torche par exemple, il verra se projeter une ombre sur un mur. Qu'il essaye tout simplement de dessiner, alors attention au mur quand même, le contour de cette figurine, il s'apercevra qu'il pourra la faire à des formats extrêmement variés. Et que si l'ombre est nette, il pourra obtenir un dessin très précis. Et c'est une capacité offerte à n'importe qui.
Même si on est nul en dessin.
Mais tout à fait.
Même si je ne sais pas dessiner,
bien sûr,
je peux tracer le contour de manière très précise.
Voilà.
Si ma figurine, si ma sculpture est, elle, assez précise.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est le point de départ, la figurine qui finalement est la forme d'origine. Mais l'avantage, c'est qu'à partir d'une petite figurine, on peut tracer des tas de dessins, et des tas de dessins différents, parce qu'une figurine, c'est du relief, et qu'en inclinant, en changeant les angles, la distance, la taille,
oui, bien sûr,
on peut, à partir de la même figurine, obtenir, et à mon avis, certaines séries qu'on observe à Chauvet ou à Lascaux, la série de têtes de cerf nageant, on va appeler ça comme ça, parce qu'on a l'impression que la tête émerge de l'eau. Et en fait, c'est pratiquement 5 fois le même dessin qui est reproduit, avec de très légères variantes, mais si on observe bien, on s'aperçoit que certains des cerfs ont des bois qui sont identiques. Donc selon moi, il s'agit de la même tête, reproduite 4 ou 5 fois par projection. Et de même qu'à Chauvet, on a une série de têtes de lionne ou de têtes de chevaux qui sont très différentes entre elles en ce qui concerne la manière dont est rempli l'intérieur de la figure, mais en ce qui concerne le contour, on a l'impression que c'est quand même une forme de base qui est la même. Et donc ces indices que j'ai remarqués, il y avait notamment le fait que beaucoup de ces animaux sont très précis et très réalistes en ce qui concerne leur contour extérieur. On y dénote même une connaissance très, très, très aiguë, très pointue de l'anatomie des animaux. Par contre, l'intérieur des formes est très souvent laissé vide. Beaucoup d'animaux n'ont pas d'yeux, hein, pas la majorité, mais un grand nombre. Et on dirait que les dessinateurs, les auteurs de ces œuvres, ne s'aventurent pas à l'intérieur d'une forme comme si ils étaient plus intimidés pour le faire, comme s'ils n'avaient pas...
Ce qui renforcerait d'ailleurs l'idée que ce ne sont pas des artistes, ce ne sont pas des dessinateurs. Alors, ils n'ont fait que tracer le contour et puis ensuite mettre des couleurs, mais pas forcément
voilà,
l'envie de passer
de
les
base.
Yeux. De...
Ouais. Ils ont enrichi la forme de base ensuite, souvent avec des colorations très belles. À Lascaux, il y a des choses absolument magnifiques. Certains ont même été plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont projeté... si on admet mon hypothèse, la figurine sur le mur, et ils ont coloré directement l'intérieur de l'ombre, ce qui fait qu'on se retrouve avec des animaux, comme certains chevaux à Lascaux, qui n'ont pas de contour, alors que la forme est parfaite.
Moi j'ai envie de vous poser une question simple. Si c'est aussi simple que ça, pourquoi est-ce que personne n'y a pensé avant ?
Je n'ai pas trouvé la réponse. Je n'ai pas trouvé la réponse, et la première réponse que j'ai eue de la part de Jean-Jacques Lefrère, quand je lui ai soumis cette idée et qu'il m'a proposé... parce que je ne vous cache pas que moi, cette recherche, je l'avais faite pour moi. Je n'avais aucune ambition autre. Simplement, j'ai voulu la partager avec des amis, savoir ce qu'ils en pensaient. Et les réactions ont pratiquement toutes été les mêmes. C'est la question que vous venez de me poser. C'était...
Si c'est forme de décalque, une sorte de jeu d'ombre portée, pourquoi personne n'y a-t-il pensé avant ? Eh oui. Mais vous êtes tombé sur Jean-Jacques Lefrère. Il n'est pas à ce micro, Jean-Jacques Lefrère, mais il faut dire un mot sur son parcours et son itinéraire. Jean-Jacques Lefrère, c'est une sorte de Sherlock Holmes de l'histoire littéraire.
Tout à fait.
Il est prof de médecine, mais c'est aussi un grand spécialiste de Rimbaud, grand spécialiste de tout ce qui est un peu perdu dans l'histoire littéraire, notamment du 19e siècle, et que vous avez embarqué dans votre histoire à vous.
Voilà. Alors, je connaissais Jean-Jacques Lefrère depuis de longue date, puisque il y a de ça 25 ans, j'avais travaillé une dizaine d'années avec lui autour de deux revues, Les Cahiers Loutréamont, Histoire littéraire.
Qu'il anime
et que j'illustrais très régulièrement, avec une constance qui était surprenante. Puis à un moment, j'ai arrêté, on s'est un peu perdu de vue. Et quand j'ai rédigé mon argumentaire concernant les grottes préhistoriques, pour moi, c'était vraiment un travail que je faisais à titre personnel. Ça rentrait dans le même cadre que d'autres études que je fais sur le dessin et la peinture. Et j'ai transmis ça à Jean-Jacques Lefrère, qui reprenait en contact avec moi à propos d'une commande de dessin. Et il m'a dit, tu n'as pas le droit de garder ça pour toi. Il faut qu'on étudie ça à fond, voir si ça tient la route, et selon un protocole rigoureux. Bon, Jean-Jacques Lefrère a quand même derrière lui, je crois, plus de 200 publications scientifiques universitaires, à côté de son travail.
Qui recherche une preuve scientifique.
Voilà. Et il n'aurait pas laissé passer quelque chose d'approximatif. Et donc, il a décidé de jouer avec moi, je dirais, l'intraitable, en me faisant faire des expériences.
Concrètement, qu'est-ce que c'est que ces expériences ? Vous dites ce que vous avez fait dans votre cave, c'est ça ?
Alors, au départ, j'ai fait des expériences, on les a refait un certain nombre de fois, y compris avec, pour ne pas que les choses soient biaisées, parce que moi, je sais dessiner un peu, correctement.
Oui, donc, c'est mieux quand on a fait les beaux-arts.
Essayer donc de refaire ces expériences avec des profanes, des gens qui ne dessinent pas, pour voir si on obtenait les mêmes effets. Et... Bon, si j'ai fait ça dans ma cave, je reconnais que c'est pas un procédé hyper scientifique, mais c'était les débuts des expériences. Par la suite, nous espérons, et les choses ont l'air pas trop mal parties, que les choses soient refaites vraiment avec un protocole scientifique beaucoup plus rigoureux. À mon avis, on risque d'obtenir les mêmes résultats. Mais habitant en Bretagne, qui est un endroit où il n'y a pas de grotte, il était difficile d'en trouver une pour essayer de refaire ces expériences. Donc j'ai utilisé ma cave, j'ai utilisé des figurines en plastique. Oui, on a peut-être oublié de préciser, parce que c'est peut-être ce qui peut surprendre, c'est que si j'ai eu l'idée de ces figurines, c'est parce qu'elles existent, les figurines préhistoriques contemporaines de Chauvet et de Lascaux.
C'est-à-dire des figurines de bisons, de rhinocéros, voilà, de lions, de cerfs,
etc. Beaucoup sont sous forme de fragments, elles sont abîmées, il y a 25 000 ans qui sont passés par là, mais ces figurines existent, on peut en voir un certain nombre au musée de Saint-Germain-en-Laye et dans d'autres musées. Et donc, c'est le constat de l'existence de ces figurines qui m'a permis de croire que cela valait le coup de creuser l'idée et de se livrer à un certain nombre d'expériences. Bon, bien sûr, je ne pouvais pas me procurer ces figurines préhistoriques.
Donc, vous avez joué avec ce que l'on peut trouver dans les magasins de jouets.
Exactement. Des petites figures de bison, de mammouth, que j'ai plantées au bout d'une petite perche, elle-même fichée dans un support. J'ai utilisé une lampe à huile antique et même plusieurs modèles de lampe à huile. J'ai même fait plusieurs expériences nouvelles depuis la sortie du livre avec des lampes de plus en plus proches de celles qu'on a retrouvées dans les grottes préhistoriques et les résultats sont tout à fait étonnants. Et je me suis aperçu finalement que ce procédé expliquait plein de petites particularités qui avaient été remarquées dans les grottes, qui avaient été constatées par les préhistoriens, et pour lesquelles ils n'ont pas une hypothèse tranchée.
Donc, l'avantage... Alors, par exemple, pourquoi est-ce que les dessins sont quasiment tout le temps, voire tout le temps, de profil ?
Alors,
du coup,
déjà,
ça l'expliquerait.
Parce que une ombre, l'ombre d'une figurine projetée de face ne représente rien de reconnaissable. On a une forme patatoïde, généralement, qui n'est pas... Le profil, c'est vraiment la meilleure forme pour qu'une silhouette animalière soit reconnue sans hésitation.
Ça expliquerait également la superposition des dessins les uns au-dessus des autres, tels qu'on a pu les remarquer, et ce qui intrigue énormément aussi les préhistoriens.
Alors, déjà, ça intrigue parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Quel est l'intérêt de superposer 5, 10, 15, 20, 100 dessins les uns par-dessus les autres dans certaines grottes? L'embrouillamini qui en résulte est absolument illisible. Je crois que c'est l'abbé Breuil et André Glory qui ont dû se livrer à des relevés par calque, là, sur papier calque, de ces formes avant de repérer certaines formes d'animaux, tellement le mélange est important. Alors il y a déjà la difficulté technique de tracer ces dessins, parce que tout bon dessinateur qu'on soit, on a quand même besoin de voir ce qu'on fait. Or là, il est quasiment impossible de distinguer le trait contraste des traits sous-jacents qui sont déjà là. Sauf que la difficulté n'existe pas quand on projette une ombre sur cet embrouillamini. Et là, multiplier 5, 10 ombres, contours d'ombre sur la même surface. Alors on va dire pourquoi faire ? Eh bien, moi, j'aurais le sentiment que c'était moins le résultat qui comptait que le geste.
Il
fallait poser une forme quelque part. Après... Là, je sors sans doute de ma compétence de dessinateur pour dire quelle pouvait être la fonction. Là, on est plus dans...
Alors on va y venir, David, parce que c'est la dernière partie de votre ouvrage avec Jean-Jacques Lefrère. C'est celui des conjectures, mais c'est celui aussi qui, quelque part, convoque la pensée au-dessus de l'écriture et au-dessus de l'art. À quoi ça sert ? Je reviens quand même à la technique, parce qu'il y a aussi une question technique que se posent tous les préhistoriens. Comment expliquer que ces hommes aient réussi à dessiner sur des parois qui ne sont jamais lisses ou qui ne sont jamais totalement lisses, avec parfois des reliefs très très abrupts?
Alors, c'est effectivement une difficulté importante quand on est... d'ailleurs, on va refaire l'expérience très bientôt avec l'aide de supports extrêmement tourmentés pour voir justement la différence d'aisance que peut avoir un dessinateur à main levée, un bon dessinateur, sur une surface tourmentée et... ce qui se passe quand on projette une ombre sur une surface tourmentée, où là, la difficulté n'existe pas, puisque l'ombre se pose indifféremment à plat, ce qui fait qu'à distance, même si la surface est tourmentée, le dessin est absolument conforme à la réalité, ce que l'on constate dans les grottes.
Donc finalement, cette hypothèse, non pas de la main levée, non pas du dessinateur, non plus du dessinateur, mais cette hypothèse du décalque, de l'ombre portée, permettrait de résoudre un certain nombre des questions techniques que posent ces merveilleux dessins pariétaux.
Alors, en fait, tous les constats que l'on fait sont des constats pour lesquels les préhistoriens ont des réponses point par point qu'ils n'ont pas forcément les moyens de prouver ou sur lesquels ils sont plus ou moins affirmatifs. Cette hypothèse, et je dirais que c'est plus une hypothèse parce que les expériences nous ont fait découvrir des choses qu'on n'imaginait pas au départ. On a vraiment créé un faisceau d'éléments qui vont tous dans le même sens. C'est-à-dire que c'est une hypothèse qui a l'avantage de répondre à 10 ou 12 questions à la fois, avec une seule réponse. On ne va pas dire que 100% des dessins, je crois qu'il y a 200 sites ornés en Europe, rentrent dans ce cadre-là. Mais tous ceux que j'ai pu étudier, une très grande partie, il y a sûrement des exceptions, il y aura toujours des exceptions sur une pratique
sur 15 000 ans,
sur 15 ou 30 000 ans, bien entendu, on trouvera toujours, on m'a beaucoup opposé la grotte de Coa Verde au Portugal, qui n'est ni une grotte et qui n'est pas peinte.
Qui est en extérieur,
en extérieur. Oui. Moi, j'aurais tendance
donc
à dire...
Donc votre technique ne fonctionnerait pas si
elle
ne
fonctionnerait pas, mais je dirais testons par nuit noire avec des torches.
L'important,
c'est d'essayer. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça coûte d'essayer ? Alors, est-ce qu'il y a des précarés qui font qu'on n'a pas le droit d'essayer, on n'a pas le droit de réfléchir quand on n'est pas du sérail ? Moi, j'ai l'impression qu'en tant que dessinateur, j'ai parfaitement le droit de me pencher sur ces dessins. Et je m'aperçois que les objections qui nous ont été faites jusqu'à présent ne sont pas d'une solidité terrible. C'est-à-dire qu'on nous dit, oui, ça ne marche pas dans tous les coups, mais on n'insiste pas tellement sur le fait que ça marche quand même très souvent et que ça permet d'expliquer... je prends le grand panneau des points mains de la grotte Chauvet. Il y a sur un panneau des ronds rouges, qui sont la paume de la main enduite d'ocre rouge a été appliquée sur la paroi. Et quand on se recule à distance, on s'aperçoit que l'ensemble de ces points mains évoque parfaitement la forme d'un pachyderme, un mammouth, un éléphant. Eh bien, c'est tellement simple que je l'ai refait d'ailleurs, je ne sais plus si c'est dans le livre ou pas, que il suffit de projeter l'ombre d'un animal et d'appliquer la grotte des points, on a exactement le même résultat. En ce qui concerne le cheval renversé de Lascaux, si la figurine est légèrement a basculé pendant qu'on l'a dessiné, on se retrouve avec un cheval. Il est aussi facile de dessiner à l'envers qu'à l'endroit avec ce procédé-là. Et on a des dessins qui sont à l'envers à Lascaux.
C'est quand même assez fascinant de s'apercevoir qu'un procédé, qui est celui aussi de l'enfant, quelque part, c'est un procédé qu'on aime
alors,
bien
utiliser. Alors, je reviens quand même sur le mot rustre que vous avez employé tout à l'heure. Moi, en disant ces gens qu'on imagine rustres.
J'ai dit supposé rustre.
Oui, mais je ne partage absolument pas ça.
Ah bon,
c'était des gens exactement comme nous.
Et là, par contre, si on regarde
ils
bien,
avaient les mêmes capacités.
Non, mais si on lit attentivement ce que disent les préhistoriens, entre moins 30 000 et le néolithique qui démarre aux alentours de moins 12, moins 10 000, on n'a pas tout de même la même morphologie, ni même les mêmes aptitudes.
Pratiquement, bon.
Donc rustre, non?
Non, je rejette ce mot-là. Au contraire, alors ils connaissaient des conditions de vie plus hostiles. Les climats n'étaient pas les mêmes.
Si par rustre, pardon, est-ce qu'on irait jusqu'à dire raffiné?
Je dirais.
Où mettez-vous le curseur?
Tout à fait analogue à nous. Ce sont nous. Et c'est pour ça que quand je lis certains textes qui laissent entendre que ces gens-là étaient des artistes surdoués, ça m'énerve autant que de lire qu'ils étaient, ils avaient des capacités inférieures. Je pense qu'il faut exactement les regarder comme des humains que nous sommes, avec les mêmes capacités de raisonnement. Tout le prouve, quand on retrouve des éléments de leur technologie, on s'aperçoit que ça nécessite une complexité de pensée. Et alors, le reproche qui nous a été fait à Jean-Jacques Lefrère et à moi, ça a été... Vous voulez, quelque part, dénigrer ou enlever du talent à ces géniaux artistes.
Oui, c'est ce qu'on pourrait se dire. On peut dire, finalement, pardon, mais c'est vrai que quand on l'apprend ex abrupto, votre technique consiste à dire, mais ce ne sont pas des dessinateurs, ce sont des reproducteurs, ce sont plus des artisans que des artistes, non?
Comme je vous disais, j'ai reçu des dizaines de mails de dessinateurs, de peintres. Aucun n'a été choqué. Tout le monde a dit, on se reconnaît là-dedans parce qu'un artiste, c'est avant tout quelqu'un qui trouve le moyen technique de dire ce qu'il a à dire. Et on n'est pas dans la virtuosité, là. Il ne s'agit pas d'épater tout le monde avec le trait « je vous fais un bison du premier coup ». Or, ce qu'ils font, c'est une démarche artistique. Aujourd'hui, quelqu'un doit faire une fresque sur un mur, il va employer la projection ou le quadrillage. Mais c'est le procédé employé. Il n'a jamais été question en art de tricher ou de ne pas tricher. Ça, c'est une approche de quelqu'un qui n'a pas compris ce que signifie le geste artistique, qui est trouver des moyens pour exprimer ce que l'on a,
quel que soit le moyen
à dire. Il faut que le moyen soit... Oui, quelqu'un dans un article a écrit « Oui, vous dites que les yeux ou l'intérieur est mal fait, mais vous n'avez pas le droit de juger, un artiste fait ce qu'il veut ». Eh bien, moi, ce qu'on m'a appris et ce que je constate dans toute l'histoire de l'art, c'est qu'effectivement, un artiste fait ce qu'il veut. La liberté est totale, elle est immense, il n'y a qu'une seule obligation en art, c'est la cohérence interne. Mmh. On ne peut pas faire quelque chose dans une œuvre et son contraire. C'est presque la seule obligation. Pollock ne va pas vous mettre un rond rouge au milieu de sa toile parce qu'il trouve ça joli. Il fera du Pollock intégralement. Il est obligé d'être cohérent avec lui-même. Et je dirais que ce qui définit un artiste, c'est ça, c'est la cohérence. Or, ces dessinateurs sont cohérents avec eux-mêmes. Ils ont un animal à représenter. Alors, pour quelle fonction, ça, c'est autre chose. On va peut-être l'aborder.
Je sens que ça vous brûle, ça, la question de la fonction. Mais oui, c'est vrai qu'on se la pose tous. Après tout, on fait de l'art. Mais à quoi ça sert? Alors, allons-y, Bertrand David. Puisqu'ils sont des artistes, puisque vous ne voulez pas, et vous avez sans doute raison, les minimiser dans leurs compétences, dans leur intellect aussi sans doute, dans leur envie de peindre et de dessiner, à quoi servaient ces dessins sur les grottes et sur les parois des cavernes?
Alors, autant pour la première partie, le côté hypothèse de l'ombre portée, je crois que dans le livre, on a essayé d'apporter un argumentaire qui est solide, qui est logique, qui est convaincant et qui, je dirais, mérite au moins d'être vérifié.
Oui,
nous ne demandons rien de plus.
On ne dit pas « c'est comme ça », comme ça, donc vérifiez.
C'est une piste et elle va au-delà de la coïncidence. Ouais. Il y a trop d'éléments qui vont dans la même direction pour qu'on puisse se permettre de l'écarter.
Comment on fait?
Voilà.
Mais pourquoi on le fait?
Par contre,
là,
la deuxième partie, c'est... Alors, là où ça nous rassure, c'est que finalement, tous les livres des préhistoriens n'en savent pas plus que nous. Ils ont chacun leur hypothèse. On a même pu dire un peu méchamment qu'il y avait pratiquement autant d'hypothèses que de préhistoriens. Mais c'est pas loin d'être la vérité, puisque là, sur la fonction de ces dessins, il y a des grandes écoles, il y a eu des choses très compliquées qu'avait imaginé le roi Gouran.
Il y a l'école d'André le roi Gouran, il y a celle de Jean-Claude qui penche vers le chamanisme. Plutôt.
Voilà, on a pensé également à des choses au niveau de l'abbé Breuil qui étaient des espèces d'invocations pour la chasse, pour avoir une chasse réussie, sauf que plein d'animaux ne sont pas comestibles, enfin, ou ne sont pas mangés par l'homme. On sait avant tout
que... Ce pas vraiment les animaux les plus communément chassés, d'ailleurs,
tout à fait, parce qu'on s'est aperçu, je crois, que la majorité des hommes préhistoriques, enfin, la principale bête qui était chassée, c'était le renne, tout simplement. Mmh. Et il n'y a pratiquement pas de figuration de renne dans les grottes. Bon, donc ces dessins représentent autre chose. On s'est dit, tant qu'à faire, pour terminer le livre, dans les 25 dernières pages, proposons notre propre hypothèse. Mais là, bien sûr, on n'a strictement aucun argument.
Qui est l'équivalent d'une hypothèse de romancier.
Voilà.
Et donc,
voilà.
Elle est tout aussi recevable. Hein, on le sait, la fiction, parfois, dit aussi la vérité. Ou la suggère.
Moi, le constat que je me suis fait, c'est que aucun de ces animaux ne représente quelque chose qui est destiné à faire peur ou à faire horreur ou à proposer un spectacle. Ces animaux sont représentés, je dirais, en soi. Ils sont représentés, on ne les voit jamais en train de brouter, on ne les voit jamais en train de dévorer une proie, on ne les voit jamais en train de se reproduire ou bien de déféquer. Ils sont représentés neutres, comme s'il fallait quelque part que cette représentation soit respectueuse. Ensuite, alors là, on est peut-être dans la subjectivité, mais il m'a semblé qu'aucun des animaux représentés n'est porteur de valeurs négatives. On va avoir des animaux rapides, des animaux robustes, des animaux impressionnants, vigoureux. On ne va pas avoir d'animaux répugnants. Alors, bon, tout est subjectif, il y a des gens qui peuvent dire « moi, il n'y a pas d'animaux répugnants ». Mais on n'a pas de reptiles, par exemple. On n'a pas d'oiseaux. Donc la question qu'on s'est posée, Jean-Jacques Lefrère et moi, c'était de savoir est-ce qu'il ne s'agirait pas, tout simplement, puisqu'on a très très peu, elles sont vraiment très rares sur 30 000 ans, de représentations d'humains, est-ce que tout simplement il ne s'agirait pas de figurations d'humains, un peu comme les fables de La Fontaine nous racontent des histoires d'animaux, et derrière chaque fable, il y a beaucoup d'humains. Et dans ce cas-là, pourquoi représenter des humains sur une paroi?
De façon métaphorique?
De façon métaphorique. Alors, ce qu'on peut penser, c'est qu'il existait à cette époque-là, il faut savoir que c'était quand même une époque de chasseurs-cueilleurs, de peuples nomades, qui formaient des clans qui n'étaient pas très élevés, parce que pour la survie d'un clan, il est nécessaire qu'il se divise régulièrement en clans. Au-dessus d'un certain nombre, la survie est beaucoup plus difficile. Donc, des clans de 15, 20, 25 personnes au maximum, qui probablement se baptisaient eux-mêmes pour s'identifier. C'est une hypothèse, on est bien d'accord. Ou se mettaient sous l'égide d'un animal.
Donc, vous êtes en train de nous dire que ces grottes ornées seraient en réalité des cimetières sans sépulture, où chaque clan
retrouverait l'animal totem. Exactement. C'est-à-dire que le clan des chevaux perd un des siens. Quand on est nomade, que faire du corps du défunt? La douleur n'est pas moins grande, et je vous dis, c'était des gens dont la sensibilité devait être très proche de la nôtre. Il n'y a pas de raison. Que faire du corps du défunt? Eh bien, on l'incinère, on l'enterre au hasard.
On ne connaît pas de cimetière datant du paléolithique. Exactement. Ça, c'est important aussi de le signaler.
Par contre, je suis persuadé que ce qui est commun à tous les humains, c'est la nécessité d'une trace mémorielle. Il est important que le grand chef vénérable, qui a été important pour la tribu, que la mère qui a eu une telle place, qu'elle ait sa place quelque part. Toutes les civilisations, à toutes les époques, ce qu'on a retrouvé dans les fouilles archéologiques, c'est presque essentiellement des sépultures, des nécropoles, des tombeaux. Les morts ont leur place quelque part. Donc effectivement, notre hypothèse, ce serait de considérer que ces dessins préhistoriques ont une fonction mémorielle et sont la trace d'humains qui ont vécu. Chaque animal représente un être qui a vécu. Et ça expliquerait la raison pour laquelle ces dessins ne sont pas destinés à être vus. Ils sont mis au plus profond des grottes. On va les déposer quelque part. Comme on a trouvé des œuvres d'art magnifiques dans des tombeaux égyptiens qui n'étaient pas destinés à être vus, mais pour honorer les morts. Cela explique aussi le fait, si l'on compare avec nos cimetières, qu'il y ait des dessins absolument magnifiques et d'autres qui sont beaucoup plus modestes. On a le carré des indigents et à la limite, il y a presque des dessins indigents, des petits dessins très, très modestes à côté de sans doute des dessins de correspondants des chefs vénérables.
Est-ce que ça expliquerait également, Bertrand David, que ces œuvres, finalement, aient échappé au vandalisme au cours de ces dizaines de milliers d'années?
Moi, je le pense. Je le pense parce qu'il y a deux raisons à cela. C'est-à-dire que quand on est un humain digne de ce nom, on respecte les morts. Donc, on ne va pas... On en a un peu peur, aussi. On ne va pas vandaliser un lieu qui n'est pas un lieu de prestige, qui n'est pas un lieu de gloire, mais qui est juste un lieu mémoriel.
Ce qui est fascinant dans ce que vous nous racontez, quand même, c'est que depuis le départ, on s'aperçoit que cette technique, la technique, en réalité, nous guide, si on tire le fil, jusqu'à ce qui fait l'humanité de l'homme.
Mais voilà, mais c'est l'essentiel. C'est l'essentiel et... Je veux dire, considérer qu'ils auraient été des dessinateurs surdoués, c'est en faire des extraterrestres. Moi, je refuse cette idée. Ce sont des gens comme nous qui avaient des moyens simples.
Ou alors, ce serait dire qu'il y a eu des génies successifs.
Oui, mais 30 000 ans, et il n'y a pas de dessin purement raté.
Ultime question.
Allez-y.
Quel est le sens des signes abstraits qui sont inscrits sur ces parois? Ça, est-ce que vous l'expliquez?
Ah, ça, c'est Jean-Jacques Lefrère qui est beaucoup plus accroché à ces signes-là. Il voudrait trouver la solution.
Bah oui, parce que. Allez, moi je vous suis, comme beaucoup d'auditeurs, j'imagine, après vous avoir entendu pendant une heure, je vous suis sur la technique et sur le dessin.
Non,
mais
là,
les signes abstraits.
Il faudrait un Champollion absolument génial pour comprendre. Alors, on peut se dire que si jamais on retient l'hypothèse mémorielle, il s'agit de. Ben, nous, on écrit sur une tombe. Hein, peut-être l'identité de la personne, peut-être un signe, peut-être les conditions de sa mort. Mais je pense que là, à mon sens, c'est sans doute définitivement indéchiffrable.
Indéchiffrable. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'attendez-vous, Bertrand David, de la communauté scientifique, pour conclure?
Alors, la communauté scientifique, il y a eu trois types de réactions. Il y a eu des réactions hostiles parce que nous n'étions pas préhistoriens.
Et on l'a dit.
Il y a eu une réaction silencieuse, mais on a su par des indiscrétions que des préhistoriens en parlaient entre eux. Moi, je trouve que c'est une attitude raisonnable. Il faut laisser le temps à ce qu'une idée mûrisse. Et on a eu un troisième type de réaction qui nous a fait très plaisir. C'est des chercheurs qui nous ont contactés en disant « Nous avons les moyens, on va se donner les moyens d'établir un protocole pour essayer de vérifier. » Et notamment, aujourd'hui, avec les outils de modélisation 3D, il est possible, le scan des grottes existe, je crois, mais enfin, il y a d'autres moyens qui existent. Est-ce qu'on s'aperçoit qu'à partir d'une figurine modélisée, en observant les différentes ombres portées, on obtient les mêmes variations que les peintures préhistoriques?
Voilà,
ce serait idéal qu'on parvienne à le prouver.
Les questions sont lancées, les hypothèses également. Il ne reste plus qu'à travailler maintenant. Merci beaucoup, Bertrand David,
de nous avoir
éclairé, c'est le cas de le dire, sur ce grand mystère et cette plus vieille énigme de l'humanité. Titre de ce livre que vous co-signez avec Jean-Jacques Lefrère, c'est aux éditions Fayard, et c'est absolument passionnant.